Il a traversé les décennies, chanté sur toutes les scènes de France, touché les cœurs et accompagné des histoires d'amour, de famille et de vie. On l'a connu star populaire dans les années 70, puis homme d'engagement, de transmission et de partage. Aujourd'hui, il continue de chanter, de voyager et d'agir à la tête de son ONG. Nous allons revenir sur ce parcours entre la scène, la route, l'image et l'humain. Bonjour Christian Delagrange.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Mélodie
Merci
Radio.
Merci de m'accueillir.
Ben oui, alors vous ressortez, voilà. Il est là, le dernier bébé.
Oui, le dernier bébé. Et il est important, ce bébé, parce que c'est vraiment, il est fait à mon image, avec tous mes sentiments et mon cœur qui est dedans. Voilà.
Ouais, et je t'aime, ça s'appelle.
Voilà.
On va y revenir. On aura même des petits extraits pour vous, chers auditeurs, de cet album. Vous êtes actuellement en tournée.
Oui.
Et pour comprendre un peu qui vous êtes, Christian Delagrange, pour ceux, les rares, qui ne vous connaîtraient peut-être pas.
Bon, il y en a.
On va retracer un peu votre...
Par exemple, la petite fille ou le petit garçon là, qui sort du berceau, là, il ne connaît pas encore.
Oui, mais les
ça
parents...
Ça viendra. Les parents sont là, heureusement. Voilà.
On va remonter au début. Tiens, vous avez été chanteur dans une chorale. Quelle est votre première image qui vous revient petit garçon qui chante comme ça.
C'est un contact avec ce, c'est une chorale religieuse, avec ce frère qui s'appelle le frère Pacifique et qui m'avait obligé à venir sur rentrer dans cette chorale, ce qui m'enchantait pas beaucoup parce que je préférais aller jouer aux billes avec mes copains. Et donc, quand je suis arrivé, c'était un jour de répétition générale. Il y avait les altos, les ténors, les autres. Et donc, les sopranes, etc. Et donc, les basses. Et donc, je l'ai vu, mais bizarrement, j'ai vu le gars qui dirigeait chaque groupe avec les mêmes textes, mais avec une autre chanson. C'est pas la même chanson. Et puis, d'un coup, il nous a tous mis ensemble et ça s'est harmonisé. J'ai découvert l'harmonie et je me suis dit, waouh, quand même, c'est un magicien. Il était tellement magicien qu'il avait, une baguette en roseau, comme ça. Et la première chose que j'ai été faire, c'est lui acheter une vraie baguette de chef d'orchestre. Et là, j'étais marron, j'avais 8 ans et c'était foutu pour moi.
Et
j'avais 8 pieds dedans.
C'est comme ça que c'est parti.
Voilà, tout est parti de là.
Et puis vous passez de la chorale, puis rapidement au rock, vous découvrez le rock'n'roll.
Le rock'n'roll avec les copains de quartier, puis un petit peu plus, on se montait en grade à chaque fois, avec des orchestres de toujours meilleurs. Et puis un jour, j'étais avec un orchestre de rock et puis on avait gagné un concours à Lyon où on devait faire les premières parties des grandes affiches. Et donc il y avait Brel. Alors ça m'est carrément passé par-dessus la tête. J'ai pas compris. Et puis on a fait la première partie des Beatles. Alors là c'est par contre pour moi c'était le top. C'était merveilleux et j'étais très très fier. C'est nous qui passons avec les Beatles. Et puis après quand on est sorti de là, on dit ouais c'est nous.
Et c'était à l'Olympia?
Non, c'est le Palais d'hiver de Lyon.
D'accord. Et oui, c'est comme ça que tout commence. Puis vous êtes aussi, vous êtes lancé dans l'industrie du disque avec trois premiers 45 tours, il me semble,
oui.
Qui ont marché goussi-goussa.
Oui, le premier, il avait pas mal marché. On était okay. Contents. 350 000 exemplaires, c'était bien. Le deuxième, un peu moyen, 150 000. Troisième, 30 000, il s'est complètement ramassé. Et là, j'ai vu que... Cette belle aventure pouvait avoir une fin et là j'ai eu très très peur. Je me suis dit ça y est c'est foutu, je vais retourner dans mes orchestres de bal.
Et puis
je me suis quand même accroché. J'ai été de porte en porte si je puis dire. Puis un jour j'étais dans un bistrot avec un rendez-vous avec un producteur et le producteur m'a dit oui moi je connais tout le monde dans le métier. Tiens celui qui joue Flipper, c'est le producteur de David Alexandre Noether. J'ai dit, ah ouais? Ah bon? J'étais le voir. J'ai tapé sur l'épaule. J'ai dit, voilà, bon, Chris Galbert à l'époque. C'était...
Et oui, et d'où ça vient ce Chris Galbert d'ailleurs?
Bon, comme ça. Ça vient de Christian, diminué, et puis Galbert, parce que j'avais ouvert le bottin
okay.
À Galbert, avec un seul led, j'en avais mis deux, ça faisait plus anglais. Et donc, c'est des trucs de gosse, hein, j'avais 20 ans. Donc. Et donc, j'étais le voir, je lui ai dit, bon, ça me plairait de travailler avec toi. Il m'a dit, viens me voir au bureau. Voilà, et puis c'est parti comme ça.
Et vous aviez peur de ne pas réussir à rester dans ce métier? Vous aviez eu envie d'abandonner ou pas du tout? C'était
non,
la chanson,
non,
vous
non,
l'aviez
pas,
choisi, vous allez faire ce métier.
Oui, non, pas tout de suite. Ça a été à l'époque, à l'époque du disco, quand le disco ouais. Est arrivé. Là, ça m'a fait peur.
J'ai
vraiment eu peur. Mais avant, non, j'y croyais. J'étais jeune, hein, j'en voulais. Hein, je voulais me battre et puis je me suis battu.
Et comment on passe du rock'n'roll à ça? On va écouter un extrait tout de suite.
Moi, qui n'étais presque rien sans toi, puis Rosetta, je me sens bien plus heureux qu'un roi. Quand tu viens te serrer contre moi, te blottir dans mes bras.
Grande aventure.
Ah oui, alors ça a été quand même délicat. Oui, faut le dire. Faut le dire parce que c'est, en fait, j'avais deux producteurs. Celui que j'avais rencontré qui faisait du flipper, et puis l'autre qui était Léo Missire, qui avait les disques Riviera, qui avait le label Riviera chez Markley. Et donc, il y avait aussi une femme qui s'appelait Patricia Carli et qui écrivait des chansons. Alors évidemment, je me suis retrouvé dans les bras de Patricia Carli. Et quand elle m'a fait écouter ça, c'était pas vraiment du rock'n'roll. J'ai fait un peu la tête. Et elle m'a dit, tu sais, si ça te plaît pas, on peut changer de prénom. On peut l'appeler Patricia. Patricia Carli, qui était la femme de mon coproducteur. J'ai envie de te faire l'amour, qu'on vient la nuit, qu'on vient le jour. Non, on est mal barré là. Non, c'est original, Rosetta, mais c'est vraiment très, très bien. Franchement, c'est très bien. Et puis le jour où on s'est retrouvés en studio, je suis arrivé bras dessous avec Patricia Carli. Au studio, il y avait le chef d'orchestre qui était déjà là, qui en homme galant se dirige vers elle en lui disant « Bonjour ma chère Rosetta ». Et là, je me suis littéralement écroulé. Et elle s'est retournée vers moi avec un sourire malicieux. Elle m'a dit « Ma, tu sais, mon vrai prénom, c'est Rosetta ». Voilà, ça a commencé comme ça.
Et ça a pris. Ça a pris.
Alors, ça a pris. Alors, je me suis dit « Bon, le deuxième, là, on va passer au rock'n'roll cette fois-ci. Ça va pas rigoler
ouais. ».
Et puis, c'est un centre chez seul. Et là, je me suis dit, mais je recevais plein de courriers de gens qui étaient... il y avait des gens très heureux, il y avait des gens malheureux, il y avait des gens qui... Des dames qui tombaient enceintes à cause de la chanson, paraît-il. Et donc, je suis tombé sur une lettre d'un type qui était en prison oui. Et qui semblait être très malheureux. Et il me disait, le seul moment où j'ai avec ma femme, c'est quand ta chanson passe à la radio, c'est là où on communie tous les deux. Et je me suis dit, c'est émouvant, c'est chouette quand même.
Et c'est là où vous prenez conscience que vos chansons accompagnent des vies, que ce soit des petites bleuettes, comme on dit, ça peut permettre à des gens de...
De rêver, de se retrouver et de partager.
Ouais. Et après Rosetta, là, vous sentez aussi que ça commence à prendre.
Là, ça marche fort. Sans toi chez soi, ça marche fort. Ouais. Enfin, j'arrivais peut-être à ce que je voulais, c'est-à-dire chanter vraiment sur scène et tout.
C'est le début, la magie des années 70,
tout à fait.
Où vous passiez d'un concert, je dis un exemple, à Lille, puis le lendemain à Aix. Comment on arrive à tenir le rythme quand on est comme ça, les routes à longueur de temps?
C'est compliqué parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on faisait tout en voiture, il y avait très peu d'autoroutes. Après, je faisais beaucoup en avion, j'ai appris à piloter, donc ça m'a permis de faire pas mal de déplacements en avion, ce qui était assez sympa quand même.
Bah ouais.
Et puis... je me suis retrouvé un jour, je me souviens, j'étais en soirée à la place de la Comédie à Montpellier, et le lendemain, je devais être à Valenciennes, l'inverse avec Mike Brand, qui lui était à Valenciennes, et le lendemain, devait être à la place de la Comédie. Et je me souviens, on s'était appelé, on s'était dit, bon, allez, moi, tes techniciens restent sur place, les miens aussi, on va juste échanger notre matériel comme ça. Et ça a commencé par une amitié très sympa.
Et vous passiez de scène en scène, et vous aviez, je crois, votre propre sono. Vous étiez acheté
on avait tous nos propres sonos. C'est incroyable. Il n'y avait pas de société de sonorisation à l'époque. On devait acheter notre matériel, donc on avait le gros camion avec le matériel. On avait le petit minibus pour les musiciens, et puis nous, on se déplaçait en voiture, quoi. En l'occurrence.
Et ça coûtait une fortune, il me semble.
Ça revenait assez cher. Oui, c'est... D'ailleurs, c'était assez amusant parce que à l'époque, j'avais un producteur qui prenait 50% de ce que je gagnais. Mais sauf que c'est moi qui payais tout le matériel, donc c'était plutôt lui qui avait 60 et moi 40. Ouais. Ouais, bon, enfin, bon, ça, c'est, C'est une époque révolue, une époque ancienne, et puis à l'époque de Johnny Stark, etc., tous les gars qui se gavaient sur les artistes. Et puis, on avait besoin d'eux, hein, parce que sans eux, on n'était pas grand-chose non plus. Hein, donc, il fallait accepter.
Et quels souvenirs vous gardez, je pense à cela, des émissions de variété que vous aviez pu faire, incalculables, qu'on diffuse sur Mélodie Télé aussi.
Les fameux Guilux, c'est merveilleux. C'est d'autant merveilleux que c'était avec des vrais musiciens. Ça, okay. C'est vraiment génial.
Pierre
parce
Porte,
que...
c'est ça hein? Chez Guilux, c'était qui? Pierre Porte
Non, il y avait...
Caravelli
Non. Je ne me souviens plus des prénoms.
Raymond Lefèvre.
Raymond Lefèvre, voilà. C'est surtout Raymond Lefèvre. Et puis Raymond Lefèvre, qui était... c'était merveilleux de travailler avec lui, avec sa petite barbichette, je me souviens. Bon, et c'était un gars fabuleux. Et il y avait les vrais musiciens, avec les violons, les cuivres. Il y avait tout ce qu'on voulait, la rythmique et tout. Et il fallait chanter. Il ne fallait pas faire semblant.
Il n'y avait aucun playback.
Il n'y avait pas de playback à l'époque. Et ça, c'était merveilleux. Ça, c'est une belle époque.
Devant combien de millions, des dizaines de millions de spectateurs?
Il y avait deux ou trois chaînes à l'époque. Donc, c'était vite fait. Hein. Ça a commencé en noir et blanc. Mm. Mes premières télé étaient en noir et blanc. Ça a continué en couleur. Et là, il y avait trois chaînes à ce moment-là. Mais ce qui était merveilleux, c'est qu'on faisait une télé, tout le monde vous voyait pratiquement. Quoi.
Et vous vous souvenez de votre première télé, justement, où...
Alors, je ne sais pas si ce n'est pas la première télé que j'ai eue, c'est avec Daniel Gilbert, je crois, à midi première, voilà. Et c'était superbe à chaque fois, c'était un régal.
Un trac de fou ou pas?
Oui.
Ah ouais,
de passer de normal. Non, c'est pas, on ne peut pas se dire, tout va bien. Non, on avait le trac. J'avais le trac. En plus, j'étais quelqu'un de très timide. J'ai eu une éducation très rigoureuse. Avec mon père, on n'avait pas le droit de parler à table et tout ça, il fallait lever le doigt pour parler. C'était l'époque où les parents vissaient, vraiment. Et je me suis retrouvé dans le métier un peu timide et je n'osais pas parler. Quoi. Je veux dire, je ne savais pas comment m'y prendre et j'avais le trac.
Vous aviez le trac. On va s'écouter un petit extrait de « Sans toi, je suis seul ». La chanson qui a accompagné, vous racontez l'anecdote tout à l'heure, le monsieur dans sa prison, et puis nos auditeurs nous la demandent souvent, donc on s'en fait un petit extrait.
Merveilleux.
Alors ne pleure pas, pardonne-moi, ce sera la dernière fois. Sans toi, je suis seul.
Quelle puissance!
Oui, bah ça va, je m'en sors encore assez bien, j'ai beaucoup de chance. En fait, ça se passe bien, ma voix se conserve parce que je chante énormément.
D'accord.
Donc je chante dans des grands trucs, dans des petits trucs, peu importe, ce qui est important c'est de chanter, c'est un muscle, c'est comme quand on va dans une salle de sport, le jour où on s'arrête, tout fond, et la voix se fond de la même façon, et donc c'est important de chanter, et en plus de ça, on a tout le bonheur avec nous parce qu'on rencontre tous les gens qu'on aime, évidemment.
Le public, bien sûr. Et ça, vous l'avez appris de votre technique, de vos années à la chorale ou en tant que soliste comment...
Oui, si on veut. J'ai appris surtout avec les premières années de rock, où il y avait déjà des super amplis pour les guitares, et mais les sonos, c'était vraiment une catastrophe. Et il fallait hurler pour se faire entendre.
Il fallait pousser.
Voilà, il fallait pousser.
Quand on vous entend... On peut faire que le rapprochement avec votre ami Mac Brandt.
Oui.
Comment vous êtes rencontrés tous les deux?
On s'est rencontrés beaucoup dans le sud. Il y avait un endroit, un hôtel à Montpellier où tout le monde descendait un petit peu, qui s'appelait Reggae News. Et puis on se rencontrait là, on se rencontrait sur les plateaux de télé. Mmh. Aussi, on s'est rencontrés. On a fait deux émissions, je crois, ensemble. Et puis après, on se rencontrait dans les spectacles, on se croisait. On s'appelait au téléphone, puis voilà.
Et puis vous avez partagé un bout de route artistique, entre guillemets, avec lui. On a beaucoup dit, beaucoup écrit sur Mike Brandt. Quel souvenir vous gardez de lui? Un beau souvenir peut-être que...
Alors, moi j'étais timide, mais lui c'était encore, c'est encore 10 fois moi. C'est vraiment quelqu'un de très timide, malgré l'apparence, cette espèce d'aura qui dégageait comme ça, c'est quelqu'un de très timide. Et il était, Je me souviens quand on allait au Reggae News où il y avait une piscine et tout, il gardait toujours le t-shirt sur lui. C'est vraiment quelqu'un qui était très fragile.
Okay.
Et d'autant plus fragile que ce contact s'établissait avec une facilité absolue. Et on parlait beaucoup, mais je crois que sa passion, c'était de chanter. Et lorsque Laurent sortait un 45 tours, lui m'a appelé en disant t'as vu là j'ai fait un contre-ré celui qui montait le plus haut et c'était très amusant, c'était une espèce de complicité très 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 mignonne quoi.
Et c'est marrant de voir l'envers du décor puisqu'on vous qualifiait de chanteur à minette et là de nous dire que vous étiez finalement vous timide et lui encore plus timide, ce n'est pas du tout l'image qu'on pourrait avoir d'un chanteur à minette.
Ben oui, mais c'est parce qu'il avait cette séduction auprès des jeunes filles aussi. On était beaucoup appuyé par la presse aussi de l'époque. Il y avait les podiums, les Stéphanie, toutes ces trucs où il y avait des posters dessus, où on faisait des bisous, on faisait des reportages où on embrassait une fille alors qu'on la connaissait même pas. Bonjour, je crois qu'il faut que je t'embrasse. Donc c'était très gênant, mais on le faisait avec plaisir, quoi. Et puis c'était une époque aussi où on était, en étant jeune, on était on regardait toutes les belles filles qui passaient et puis on avait envie de les embrasser, forcément aussi.
Alors j'allais rebondir, mais peut-être pas sur la dernière phrase. Elle vous manque cette époque en général, face à ce que vous venez de dire.
elle me manque parce qu'il y avait une espèce d'insouciance dans les gens. Il y avait cette insouciance et cette bonté. Les gens acceptaient tout avec plaisir. En arrivait, il y avait toujours un sourire aux lèvres. Aujourd'hui, je vois, si on sort un truc, je sais pas, dans les réseaux sociaux, il y a 50% de gens qui assassinent, hein, comme si c'était un plaisir absolu d'assassiner les gens. Et j'ai l'impression que leur vie est tellement triste qu'ils se vengent à travers ce genre de comportement. Et c'est vraiment dommage, parce que la vie, elle est belle quand on aime. Hein, elle n'est pas belle quand on casse les gens et quand on les haït, surtout pas. Voilà.
Il y avait cette insouciance, peut-être, ce que vous êtes en train de me dire, dans les années 70, où c'était plus simple, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas...
Ah bah oui, là, il y avait un contact humain qui se faisait directement, oui, c'était beaucoup plus simple.
Vous avez dit dans une interview que le succès éblouit, mais ne construit pas. Qu'est-ce qui vous a structuré, vous, dans cette période où vous devenez une grande star de la chanson française?
Ce qui m'a structuré, c'est la peur que demain soit fini.
Ah ouais.
J'ai toujours vécu dans l'angoisse en disant c'est peut-être mon dernier 47 tours, c'est peut-être mon dernier disque. Après demain ça marchera plus, on voudra plus de moi. Et c'était vraiment 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 la grosse angoisse qui fait que on garde relativement la tête froide, même si on peut paraître
je en suis paillettes
là,
sur scène.
Je suis là, oui. Mais une très forte angoisse à chaque fois et c'était des moments des moments de bonheur. Enfin, quand je me suis toujours dit que quelque part ce trac que nous avions avant de rentrer sur scène, c'était le petit trac avec le doigt de pied qui sort, qui est déjà sur la scène et qui commence à danser. c'était un peu ça, quoi. On était bien chez nous, quoi. Devant la télé, on s'embêtait, mais sur scène.
Et c'était la scène qui primait par rapport aux studios, aux enregistrements.
Ah oui, c'est la scène complètement. Oui. On était heureux quand on rencontrait les gens, oui, bien sûr. C'est merveilleux. C'est pas qu'on soit cabotin, mais ça fait toujours beaucoup de plaisir quand on est applaudi et quand les gens sont là à vous soutenir. Et ça fait quelque chose quand même. Et puis on se dit, on sert à quelque chose, on apporte un peu de bonheur.
Et même 50 ans après, ça vous fait quoi? On y reviendra à la fin de cette interview, mais que d'avoir toujours un public fidèle. Parce que vous êtes un des chanteurs avec de manière moderne, la fanbase, les fans, il y en a des dizaines, des centaines de milliers même.
Oui,
sur les réseaux, on peut le voir, et puis qui vous suivent partout en France.
Il y en a beaucoup, et puis ça devient des amis à la fin, parce qu'on les connaît, enfin moi j'en connais des dizaines comme ça.
Ok.
Et lorsqu'on se rencontre, lorsqu'il y a un problème dans leur famille, je suis parmi les 10 personnes prévenues, je suis dedans. Il y a un décès, un mariage, une naissance, tout de suite, Christian, ça y est, j'ai eu ma petite fille qui est née, et tout, je sais tout, tout de suite.
Des fans.
Ouais, c'est ça, et ça c'est beau parce qu'on partage la vie de tous ces gens-là et c'est très enrichissant. C'est une très belle expérience humaine.
C'est peut-être pour ça que vous avez choisi et embrassé ce métier de la chanson.
Involontairement, sûrement.
On va s'écouter, après j'aimerais bien que vous me donniez un petit mot sur cette chanson, cet énorme succès, Tendre Cathy.
Ah.
Tu es belle et à ton âge, on ne meurt pas d'amour.
De Tendre Cathy à Aïe, je t'aime, on chante toujours l'amour.
Oui,
vous,
on
Christian.
Chante toujours l'amour finalement. Et cette chanson, elle était dans un film qui s'appelait Avanti et Patricia Carli avait sorti la chanson et écrit des textes dessus. Mais Patricia, toujours. Quelqu'un qui avait la main, qui avait cette main populaire et cette main de beauté d'écriture, parce que c'est simple, ce sont des mots simples, ce sont des mots qui touchent les gens. Touchés.
La chanson d'amour, elle a quelque chose de supérieur, tiens, la chanson d'amour par rapport aux autres chansons peut-être d'actu,
non, sûrement pas supérieure. Elle fait partie d'un élément de la vie. C'est par exemple, si on enlève le rouge et qu'on laisse que le bleu va manquer. Mmh. Voilà, c'est une construction de vie et c'est la chanson d'amour, on en a besoin. J'espère qu'on en a besoin parce que sinon, ça serait très inquiétant. Mais je crois qu'on a tous besoin de rêver, on a tous besoin de se réfugier derrière cette vie qui nous emmène à 300 à l'heure de partout. On est toujours en train de tout courir de partout et se relâcher un petit moment et puis laisser une place à la tendresse, c'est super quand même. Non ?
Et ça, vous le faites plutôt bien.
Je sais. On arrive avec sincérité en tout cas.
Pardonnez-moi ?
Avec sincérité en tout cas.
On arrive peut-être à la fin des années 70, à l'image des chanteurs à papa, Tino Rossi, Maurice Chevalier, qui ont été balayés par les yéyés, beaucoup de chanteurs des années 70 vont être mis à mal par le disco. Comment avez-vous vécu cette période ?
J'aurais pu la vivre très très mal. Je crois que Mike l'a mal vécu, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que quand je l'appelais, il était vraiment dans démoralisé, ça se passait pas bien. Et ce qui peut expliquer son geste, malgré qu'on ait pu dire qu'on l'a poussé, qu'on n'importe quoi, je sais pas, on ne saura jamais ça. Mais ce qui est certain, c'est que c'était un moment délicat. Ça a été un moment où j'ai un peu touché le fond. Parce que d'un coup, tout s'écroulait. Mais j'avais une autre passion, heureusement, qui était celle de l'image.
Voilà.
À force de traîner sur les plateaux de cinéma, parce que je me servais un petit peu de mon nom de temps en temps, j'allais voir un peu ce qui se passait. J'avais fait la Révolution française au Théâtre Mangador à l'époque. Et je voulais faire de la comédie. Mais finalement, en traînant sur les plateaux, je me suis aperçu que la réalisation, c'était quelque chose de chouette. Donc, j'ai tenté le coup. J'ai fait quelques petits films, pas des longs métrages, hein, des petits films comme ça. Et puis au bout d'un moment, les petits films, ça appelle à avoir une société et être capable de démarcher, de trouver du boulot. Ce qui n'était pas du tout mon cas, moi j'étais un artiste. Et donc je me suis retrouvé avec un copain qui était directeur d'une grosse chaîne de télé, qui m'a dit, t'inquiète pas, je vais te prendre avec moi, tu vas partir avec un journaliste, toi la caméra à l'épaule, et puis vous allez faire le reportage. Alors des reportages, j'en ai fait quand personne n'était libre, j'en ai fait des super, quand personne ne voulait les faire, j'en ai fait des plus difficiles.
C'est-à-dire, vous êtes parti aux quatre coins du monde.
Oui, ça veut dire Centrafrique, ça veut dire Kosovo, ça veut dire des endroits où c'était un peu, la vie était un peu triste quand même, hein, ça bataillait sec. Et donc, quand je suis revenu de ça, on dort pas bien quand on voit les gens souffrir. Hein. Je veux dire, c'est surtout dans ces cas-là. Et j'ai eu envie de faire quelque chose. Et c'est là où j'ai glissé un petit peu sur l'humanitaire, en me disant, je vais essayer de faire quelque chose de constructif qui va me guérir des cauchemars que je peux faire.
Ouais. Voilà. Et pendant ces moments-là, vous êtes très loin des paillettes, de la scène. Est-ce que vous avez pensé à remonter ? Est-ce qu'elle vous manquait, cette scène, ce public ? Même si vous voyez d'autres choses peut-être plus fortes avec le malheur des gens.
Oui, oui, c'est marrant. Il y a quelques temps, j'y ai pensé encore. J'avais fait un clip pour Stéphanie Monaco, ouais. À l'île Maurice. Et je me souviens encore en train de chanter devant elle, avec toute l'équipe de tournage, avec un mini-cassette sur la plage. Et moi, sans micro, bien sûr, comme ça. À faire un petit mini récital pour toute l'équipe. Donc, vraiment, ça me manquait vraiment. J'en ai, quand on m'a demandé de le faire, j'ai dit oui tout de suite. C'est vrai que ça me manquait terriblement. Et puis, il y a eu une époque où j'ai rencontré un noir, un monsieur, qui dans une salle de spectacle, j'en faisais encore un petit peu de temps en temps, qui n'était pas très loin d'ici d'ailleurs, je crois que c'était à Tourcoing ou Roubaix. Okay. Et ce monsieur vient me voir, il est habillé avec un boubou, il vient me voir et il me dit, tiens, garde alors, cette petite poupée de la fécondité africaine. Il m'a dit, c'était en 91, 90, il m'a dit, garde-la précieusement parce qu'elle te portera chance. Et donc, c'est la même poupée que j'avais perdue. Je l'avais en or avec une chaîne Cartier à l'époque. Okay. Et donc, un jour, en montant mon chien sur le bateau, il m'a arraché la chaîne au fond de l'eau, dans la Méditerranée. Et donc, je me suis dit, c'est merveilleux, c'est un cadeau. Je dis, c'est de la ferraille, d'accord, mais c'est un cadeau que tu me fais. Reste là, je vais te payer un coup à boire.
Okay.
Je suis revenu faire une chanson, c'était une fausse sortie, donc je suis revenu faire une chanson de rappel. Et quand je suis descendu derrière, j'ai cherché cet homme et je ne l'ai pas vu. Et donc j'ai dit, vous n'avez pas vu un monsieur en noir avec un boubou? Non. Si, c'est un boubou jaune avec des manches courtes, en plein hiver, avec des manches courtes. Et là, il m'a dit, il faut arrêter de fumer la moquette parce que ça ne va pas le faire. Et je ne l'ai jamais revu. Mais du jour où il est passé dans ma vie, tout s'est arrangé et je me suis remis à chanter, je me suis remis à faire des spectacles. C'est incroyable, hein, il y a des histoires. Donc, on peut ne pas y croire, hein, mais moi, je l'aime et elle me protège depuis 90. Ça fait 25 ans qu'elle me protège. 35 ans qu'elle me protège.
Et donc, elle vous protège depuis 90 et, ouais. Et c'est là
35
où
vous, ans de fidélité.
Ans. Vous avez appelé ça comment?
Ah, c'est la poupée de la fécondité.
Ah, la poupée,
c'est la poupée
de la fécondité.
Africaine de la fécondité. Et donc, j'ai toujours gardé sur moi. Et puis.
Et ce monsieur, vous ne l'avez jamais revu?
Jamais, jamais, jamais. Et personne ne l'a vu. C'est ça le pire. C'est que à chaque fois, je demandais aux gens autour de moi, mais vous avez vu un noir là, qui vendait des trucs, qui devait vendre sûrement des trucs. Vous avez pas... Non, je n'ai pas vu. Personne ne l'avait vu. Mais avec en jaune, un boubou jaune, avec une manche courte, en hiver, tu sais, au mois de décembre, au janvier, je ne sais plus. Mais ça va pas, non, t'es fou, quoi. Non, j'étais pas fou, je l'avais vu. La preuve, je l'avais dans la main.
C'est à cette période, d'ailleurs, où vous revenez avec un clip, je crois, dans un avion de chasse, un Mirage 2000.
Oui, après,
Revenir,
ouais,
c'est
ouais,
ça
ouais, ouais, ouais. C'est la chanson qui s'appelle Revenir. J'avais eu de la chance parce que j'avais des amis qui travaillaient chez Dassault. J'avais des amis qui étaient toujours passionnés par l'aviation, donc j'avais des amis qui étaient à l'armée de l'air aussi. J'avais demandé à faire ce clip, à déposer le scénar et tout, l'armée de l'air ne m'était pas du tout intéressée, et j'avais cette équipe de chez Dassault. Je me dis, ouais, nous, on va le faire. C'est pour ça que j'ai une combinaison orange, une combinaison de pilote d'essai, hein, dans l'occurrence, au lieu d'une combinaison verte que ça aurait dû être. Mais j'ai eu la chance de tourner ça. C'était vraiment un truc impossible à tourner, normalement. Et donc, l'amitié était là, déjà, aussi. Il y avait des gens qui m'ont apporté leur soutien et leur amitié pour que je puisse le faire.
Et comment vous êtes passé de l'image à revenir à la chanson, ce qui est l'étape peut-être la plus dure de votre carrière, finalement?
Non, il y a un moment donné où l'appel du public m'a été tellement importante que J'ai tout de suite oublié l'image et je suis revenu vers les gens chanter et enregistrer et chanter. Et puis il y a eu cette époque aussi merveilleuse des compilations. C'est un jour quelqu'un m'a appelé de Belgique, qui était le patron de BMG Ariola, et qui me dit je voudrais savoir qui s'occupe des... Et moi, je venais de racheter mes droits. Je dis ben, moi. Et donc, ah bon, parce qu'on voudrait faire une compilation. Je dis, c'est quoi ça? Un CD avec vos chansons dessus. Ah ouais, mes enfants, ils auront un CD. Ça venait de sortir, les CD, ouais, à l'époque aussi. Quoi. Ah, et ben, ça va être classe, quoi. Peut-être personne n'écoutera, mais eux, ils l'auront au moins. Et en fait, non, ça a beaucoup vendu. On en a vendu énormément. Et donc, qui dit vente, dit appel. Vous êtes libre pour telle date pour un spectacle.
Et c'est puis promo, puis...
Voilà.
Et oui, puis ça marque le grand retour dans les années 90. La première fois que vous êtes remonté sur scène, Véritablement, ça vous a fait quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je n'avais jamais vraiment arrêté de la scène. Hein.
Je veux dire,
c'était peut-être tous les mois, je chantais une fois par mois, mais je chantais quand même. Donc c'était essentiel. Mais bon, avec devant 30 personnes. Mais bon, je chantais, c'est important. Et puis, bon, petit à petit, de 30, on est passé à 100, 200, 300. Voilà. Et puis, il y a eu un coup de pouce qui a été vachement sympa aussi. C'était la tournée à Chtendre.
Eh oui.
Là, on était toute une bande de chanteurs de l'époque des années 70.
De Michel Alguet.
Voilà. Et qui d'un seul coup, se retrouvait avec 4 000, 5 000, 6 000, 8 000 personnes à Lyon, par exemple. Hein. Et chose qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. Mmh. On avait l'impression d'être des vraies stars, quoi. C'était chouette.
Vous l'étiez.
Oui, on gardait les pieds sur terre. Enfin, moi, je faisais partie de ceux qui gardaient les pieds sur terre.
L'été, ouais.
J'étais trop content que ça se passe comme ça. Quoi. C'était ce contact avec les gens. Et en plus, je râlais à chaque fois parce qu'il y avait beaucoup de monde et les artistes n'étaient pas toujours très chauds pour dédicacer. Moi, j'étais toujours prêt à dédicacer. Mais ils étaient pressés parce qu'on faisait deux séances et à chaque fois, il fallait liquider le monde pour que les gens repartent chez
C'est-à-dire
eux.
C'est-à-dire une matinée, une soirée.
Voilà. Okay. Et donc, moi, je râlais un peu parce qu'il y avait... Je constatais qu'il y avait des gens qui étaient insatisfaits et ça me rendait malheureux. Quoi. Je me disais, mais zut, après ils vont dire que c'est moi qui n'ai pas voulu signer. Quoi. C'est dommage, moi je demandais que ça.
Et c'était une belle bande de copains aussi, cette tournée.
Oui, ça a été merveilleux. Alors il y avait une image qui me vient à la tête. Il y avait des théâtres où il y avait des places des loges presque pour tout le monde, où on était à deux. Puis il y a des théâtres où il y avait 4 loges seulement. Mm-hmm. Alors il y avait des stars qui avaient leur loge personnelle. Et puis, ou surtout les dames, ce qui est un peu logique aussi. Et puis, il restait deux petites loges où on mettait tout le monde, tous les autres. Et moi, un jour, j'avais pris un truc, j'avais marqué « fausse commune
». Pour être tranquille.
Ça n'avait pas plu à Alguet.
C'est marrant, ça. Ouais. Une belle bande de copains.
C'est bien marré. Quoi.
Mais le plus important dans tout ça, c'est quand même le public.
Ouais, c'était
Qu'est-ce
public.
Que ça vous a fait quand vous avez, je sais pas, 5 000 personnes qui reprennent vos refrains en chœur?
C'est merveilleux, surtout qu'on est accompagné par les musiciens, qui étaient très bons, il y avait de très bons musiciens. Et c'était un vrai régal. Quoi. Alors, on avait tout pour être heureux. Quoi. C'est super.
Et puis aujourd'hui, ben, vos chansons, votre carrière, le « Et je t'aime, j'espère bientôt », c'est transmis aux jeunes générations, puisque quand on vient vous voir, c'est souvent les parents, les grands-parents avec
vrai,
leurs enfants, petits-enfants.
Oui, c'est vrai, il y a des jeunes, moi, j'ai toujours en image une petite fille de je sais pas, elle avait 6-7 ans. « Ne t'en va pas, ne t'en va pas !» Elle chantait tout fort comme ça. Et c'était trop mignon, quoi. Je veux dire, c'est envoyé qu'il y avait l'influence de papa, maman. C'est merveilleux. Il y en a eu plein comme ça, mais c'est toujours beau. Je me dis, bon, si tout le monde pouvait accrocher de la même façon, ce serait génial.
De retransmettre vos chansons.
Ouais.
Il y en a une qui a votre... Question peut-être bateau, mais tiens, j'y pense. Il y en a une qui a votre préférence. Peut-être pas un des gros tubes, une chanson qui dit « Celle-là, j'en suis vraiment fier ».
Non, je crois pas. Je crois que les préférences, c'est toujours les dernières, parce qu'on les a
Évidemment.
Pas encore assez chantées. Oui. Non, mais il y a des chansons, il y a les grands succès, et les chansons qui font lever les gens et à qui ça plaît vraiment, et qui fait plaisir, des Sans toi, je suis seul, des Rosetta, des Tendre Cathy, des Premières filles, Premières femmes, etc., etc. C'est les chansons qui ont touché le public, et donc c'est merveilleux. Mais les dernières, franchement...
Alors, qu'est-ce qu'elles sont bien.
Chouettes.
Qu'est-ce qu'elles sont bien.
J'ai hâte de les faire découvrir.
Ah ben, on se fait un petit extrait maintenant.
Allez,
on s'en fait un maintenant.
Et je t'aime, ma douceur. Et je t'aime, sur ma vie, mon honneur. Et je t'aime, ma douceur. Et je t'aime, une histoire sans douleur. La vie à la mort, aux confins des Açores, je t'emmène et je t'aime.
Et je t'aime.
Voilà, mais il faut le dire. Il faut pas avoir peur de le dire. C'est important, c'est un mot important. C'est un mot qui fleurit la vie, voilà, qui colore la vie. Le je t'aime est très, 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 très important. Bien plus important que les conneries qu'on met
Portes des loges.
Sur les portes des loges notamment, mais dans les réseaux sociaux aussi. Voilà.
dans cet album d'Or et de Cristal et Je t'aime mon ami, un peu d'amour. On va y revenir juste après. J'aimerais qu'on évoque aussi ce qui fait de vous l'un des chanteurs les plus appréciés, c'est votre engagement aussi humanitaire.
Ouais.
C'est en 2007 que vous fondez l'AHI, l'Assistance Humanitaire Internationale.
Ouais.
Pourquoi vous avez, alors pourquoi ce pas-là, vous avez évoqué parce que vous avez vu des zones de guerre, des zones de tristesse. Ouais, quel a été le moment décisif où vous vous êtes dit là j'y vais, je veux faire quelque chose?
Alors c'est passé en deux étapes. Déjà j'ai commencé sur une autre ONG qui j'étais responsable de ma région, mais qui avait tendance un petit peu à se payer de beaux repas, des voyages, des machins, des trucs comme ça, et ça me dérange énormément. Et donc moi je me suis dit c'est pas ça l'humanitaire. L'humanitaire c'est quand on a 2 euros, c'est pour que ça aille aider les gens et pas pour se payer un voyage. Et donc, je suis parti de là, et en 2007, j'ai pris une bande de copains, et je leur ai dit, voilà, pas compliqué, tout le monde peut partir en voyage. C'est pas comme dans l'autre, où il y avait que les importants qui partaient en voyage, en first, en tout ce que vous voulez. Non, là, tout le monde peut partir en voyage, parce que tout le monde va payer son voyage, voilà, il n'y a pas de problème. Et donc, on n'a jamais eu un ticket de restaurant, quoi que ce soit. Au contraire, on a des moments merveilleux qu'on passe ensemble. Quand il y a des chargements, je me souviens d'un chargement de conteneurs. Il y a quand même 76 mètres cubes à charger dans un conteneur. Hein, c'est des high cubes. Et lorsque l'équipe a fini, c'était une première semaine de janvier. Il faisait un peu froid. Et on était dans le hangar. Et là, comme par magie, on a dressé une grande table comme ça. On est tous sortis. Et là, on a vu des bouteilles de champagne, les restants de foie gras, les machins. Et on s'est éclaté, qui sortait du sac, quoi. Et on s'est éclaté. Et ça, c'est du moment que personne ne peut acheter, hein, qu'on n'achètera jamais dans un restaurant.
Ouais.
C'est ce partage d'amitié, ce partage de beauté, de... C'est la beauté de la vie, hein. Tout est beau.
Et grâce à votre ONG, vous avez permis de construire des hôpitaux dans plus de 20 pays, je me suis noté.
Oui, plus de 20 pays, oui. Bon, il y a des écoles, il y a des orphelinats, il y a des hôpitaux. On intervient là où les dossiers sont sérieux, où les gens sont bien et qui ont vraiment besoin d'aide. Et là, ce sont des moments merveilleux parce que d'un seul coup, on se dit, bon, on y va. Et puis, ça sort de terre et on présente un bâtiment exceptionnellement beau pour nous, à nos yeux, et pour eux aussi, parce que je me souviens d'un hôpital qu'on a construit à Bénin. On partait de 100 mètres carrés et ça finit sur 3000 mètres carrés. Donc, on a détruit l'ancien de 100 mètres carrés qui était insalubre à mourir. Et on s'est sorti de terre, et là, c'est une belle histoire. Et en plus, aussi belle histoire que j'y suis... À chaque fois, je suis assez actif dans ce genre de choses. Le plan qu'on nous avait présenté au départ, c'était un plan, il y avait un bâtiment carré. Alors, il y avait le hall central, il y avait les soins là, il y avait la pharmacie là, il y avait la comptabilité là, il y avait la salle d'attente là. En fait, tout était mélangé. J'ai dit non, ça ne marche pas comme ça. Alors, J'ai sorti j'ai un logiciel de pour les plans et j'ai commencé à travailler dessus. J'ai vu des copains chirurgiens en me disant bon, et il me dit ouais, c'est bon là, ça va, le couloir sale, le couloir propre. Et on est parti là-dedans et c'est mon imagination s'est construite. Et ça, c'est beau. C'est l'impression d'écrire un scénario de film et que le film se met à vivre. C'est un peu ça.
Pour l'humain. Et c'est ça peut-être votre plus beau souvenir d'humanitaire?
Oui, ça fait partie des plus beaux souvenirs. Mais je crois que les plus beaux souvenirs aussi, c'est les regards. Les regards quand on est dans une école, quand on apporte des jouets pour le Noël, c'est de voir ces sourires épanouis. C'est souvent les gens les plus malheureux qui ont les plus beaux sourires. Nous, on est capricieux, on veut tout. On a tout en France. Soyons sérieux. Il y a 62 ans, 65 ans, D'accord, mais on peut manger tous les jours pratiquement, quoi. Il y a des gens malheureux, mais eux, non. Eux, c'est au jour le jour, quoi. Je trouve un stylo, c'est pas je vais écrire avec, c'est peut-être je vais pouvoir le... Non, je vais pouvoir le vendre pour manger ce soir. C'est important.
Et pour ceux qui nous écoutent, comment on fait pour vous aider?
Alors, j'ai établi un truc qui est assez pratique finalement, parce que tous les samedis à 11h sur Facebook... Je fais un compte-rendu de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Donc, c'est Assistance Humanitaire Internationale. Et donc, vous tapez Christian Delagrange, humanitaire, vous allez tomber dessus, de toute façon. Et là, c'est notre rendez-vous, parce que là, je peux vraiment parler au jour le jour, enfin, au jour le jour, à la semaine,
ouais.
de tout ce qui a pu se passer, et il se passe beaucoup de choses. Et donc, je me suis aperçu que là, on a une page, on a un site, assistancehumanitaire.org, mais il y a tellement d'informations que ça devient très compliqué de s'y retrouver. Alors, il y a une carte, nos actions, avec tous les pays qu'on a pu aider. Okay. On clique sur un pays, mais après, il y a encore des sous-machins. Il y a eu tellement de choses que c'est... Donc, vivons le présent, ne pensons à ce qui est passé. Ben, on l'a fait,
ouais.
C'est bon. Vivons dans le présent. Et donc, ce qui est chouette aussi, c'est que ça permet de partager toutes les idées qui me viennent dans la tête. Et j'avais une idée qui était... Il y avait pas mal de gens qui... Oui, mais en France, il y a aussi des malheureux. Bon. En France, il y a des malheureux, sauf que dans ces pays-là, il y a beaucoup de malheureux. Et si on ne les aide pas, ils vont venir en France. Et là, on va être dans la merde. Enfin, excusez-moi le mot, mais ça va faire beaucoup de monde malheureux. Donc, il faut les aider où ils sont. Et puis, la France, on l'adoucit parce qu'il y a des enfants malheureux. Il y a des enfants qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent. Mmh. Hein. Et chaque année, ben, depuis 5 ans maintenant, j'ai eu l'idée de faire le coup de pouce au Père Noël. C'est-à-dire que les gens qui m'aiment bien, on nous envoie un petit peu d'argent, des jouets, des trucs comme ça, et on les distribue dans les hôpitaux.
Et donc tout ça, pour être bien clair, il y a un lien sur votre page Facebook pour vous envoyer des dons
notamment,
ou des jouets.
Notamment, oui.
Voilà.
Notamment. Voilà. On peut cliquer sur le lien et se retrouver sur le... Je vois que vous avez tout vu.
je poursuis, bien sûr, avec... Voilà, il y a la grande partie de Christian Delagrange, c'est la chanson, l'humanitaire, et puis voilà, on arrive... Pour parler un peu plus en profondeur de ce dernier album, comment il est né? Question simple, mais ça, le dernier date de quand? 2023, je crois.
Non, il vient de... Oui,
l'avant-dernier.
Ah, l'avant-dernier, oui. 2024, 2023, oui.
OK.
Mais celui-là, il est né d'une rencontre avec un musicien qui s'appelle Alain Depourdis et qui m'a dit, mais tiens, j'ai peut-être des chansons pour toi. Il me les a fait écouter. Il y a des paroles que j'ai pu modifier dedans pour qu'elles soient à mon image, enfin, sans prétention, mais qu'elles soient plus dans ma vie intime. Et puis d'autres chansons où il n'y avait pas encore de paroles, où j'ai pu écrire avec une amie, une châtelaine qui est dans le midi de la France, là-bas. Francine, et que je salue au passage, et donc on a écrit des paroles qui me touchaient beaucoup, et je venais notamment de perdre un petit chat qui avait 17 ans. Et c'est pas le premier animal que je perdais, évidemment, et à chaque fois c'est très douloureux, et je me suis dit que peut-être on pourrait faire une chanson qui parle d'eux. Et cette chanson s'appelle Mon ami. C'est un hommage qu'on rend à tous ces enfants, tous ces amis, tous ces enfants à quatre pattes que nous avons.
C'est je crois que vous me l'aviez envoyé aussi, une belle chanson.
Oui, je vous l'ai envoyé aussi.
Vous avez, vous sortez un nouvel album. Est-ce que vos chansons, aujourd'hui, elles sont différentes de celles des années 70 ou vous gardez peut-être une même...
Elles ne sont pas différentes dans la mesure où on parle toujours de l'amour des gens, de l'amour, de l'amour entre couples, de l'amour de l'amitié, ou de l'amour des animaux aussi, en l'occurrence. Mais ça parle toujours de ces sentiments positifs. C'est la seule différence qu'il y a, peut-être, parce qu'après, les textes ont évolué aussi. Mmh. On est peut-être un peu plus profond sur certains textes. Ça m'amuse parce que quand on a écrit cette chanson, on a enregistré et j'avais toujours un ami près de moi à qui la chanson allait. Il y en a qui s'est fait larguer par sa femme, c'est pour lui celle-là. Et ainsi de suite. Et cette chanson était pour moi aussi.
Et
donc ça parle
chat,
de ma vie aussi.
Vous, ouais.
Ça parle de ma vie aussi, le petit chat aussi parle de ma vie. Il y a plein de chansons qui parlent de ma vie et qui parlent aussi de la vie de tout le monde parce qu'on éprouve tous les mêmes sentiments. Ouais, j'espère.
Mais vous avez totalement raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cet album s'arrache. J'ai vu sur votre Facebook, les gens le demandent, donc on peut le trouver où?
Alors, actuellement, il est sur Amazon.
Okay.
On peut le trouver sur Amazon, on peut le trouver aussi en spectacle. Les maisons de disques, actuellement, ce qui m'a dérangé, c'est ce côté... Dès qu'on est dans une maison de disques, on les met sur...
dans les bacs
Non, pas dans les
Spotify.
Bacs, il y en a de moins en moins, mais sur Spotify, etc. Et en fait, on s'aperçoit que il n'y a plus ce... Moi, je suis attaché à ce contact physique, parce qu'il y a des photos dedans, il y a un livret, il y a des trucs. Et puis, je me souviens, quand j'étais môme, que j'écoutais des chanteurs, j'ai regardé les photos, j'avais l'impression que j'étais au milieu d'eux. C'était magique. Et le perdre, c'est dommage.
Et c'est pour ça que le vinyle revient finalement, aujourd'hui.
Sûrement.
Plus en plus de personnes. Christian, pour conclure, voilà, je me suis noté quelques petites questions. Quand vous êtes sur scène, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous émeut encore?
Si j'ai le malheur de trop écouter mes paroles, il y a des paroles qui m'émeuvent énormément. C'est-à-dire qu'il y a des fois, par exemple, celle de mon ami, quoi. Je veux dire, au début, quand j'ai chanté, j'avais du mal à retenir ma larme parce que c'était vraiment... C'est vraiment du vécu, quoi. Et puis, il y a la beauté de l'amour aussi, qui émeut aussi énormément. Je me souviens aussi d'un retour à la chanson qui avait été fait Casino de Paris. Et à la fin, j'avais une chanson qui terminait, où je remerciais les gens. Et je me vois encore, ça avait été filmé, je me vois encore en train de sortir. Il y avait l'émotion qui était là parce que j'étais tellement heureux d'avoir repartagé encore avec du public. Il y a des choses. On a plein d'occasions d'avoir de l'émotion sur scène et des fois quand on regarde les gens aussi, on lit tellement de choses dans les regards que ça touche, quoi. Ça touche. On peut paraître indifférent.
Une fidélité qui vous est consacré par votre public depuis les années 70.
C'est pas mal.
Si vous deviez, par exemple, vous adresser au chanteur de Rosetta, au Christian Delagrange, qui commence à exploser, vous lui diriez quoi aujourd'hui?
Vas-y, petit gars, bouge-toi un peu plus, peut-être. Un peu moins peur, sois un peu moins timide, bouge-toi un peu plus, vis un peu plus au milieu des gens. Du showbiz, peut-être que tu auras plus de chance. Moi, non, j'étais assez retiré de tout ça. Et j'ai toujours été assez retiré. Et puis, quand j'ai commencé à être un petit peu à l'aise financièrement, je me suis surtout intéressé à l'aviation, presque plus qu'à la chanson.
Ah oui.
J'étais passionné par ça. J'avais des copains qui étaient à Air Inter, Air France à l'époque. Et je voulais devenir pilote à 35 ans. Quand est arrivé le disco, j'avais 35 ans, je me suis dit, bon, allez, je laisse tomber, je vais devenir pilote. Et puis mes copains d'Air France me disaient, t'es fou, quoi. Il y a du chômage à tout va dans les pilotes. 5 ans après, ils allaient en chercher partout, ils allaient recruter dans tous les autres pays à côté. Mais là, il y avait. Et là, je me suis dit, bon, ils ont raison, quoi. C'est pas le moment. Bon, on va faire de l'image.
Et vous avez encore votre PPL, votre avion? J'ai
laissé tomber ça parce que c'est. C'est à un moment donné où financièrement ça coûtait très cher, ouais. Quand même. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, je me suis calmé.
Sur l'aviation.
Sur l'aviation. Mais le PPL, donc, veut dire que vous êtes pilote aussi, non?
Non, je.
Vous avez touché.
Je connais. Pas encore. Si vous devriez résumer votre carrière, vous diriez quoi finalement à votre public?
Un grand merci parce que j'ai été heureux grâce à eux. C'est vraiment eux qui m'ont emporté ce bonheur de vivre. Et c'est eux qui me font vivre encore. Quoi. Je veux dire, c'est quelque chose sur un plan émotionnel, c'est très fort. Quoi. Je veux dire, c'est cet amour qui donne. Parce que combien d'années que je ne passe plus en télé, que je ne suis plus du tout une star.
Vous passez chez Patrick Sébastien.
Ouais,
aux années bonheur
déjà, oui. Mmh.
Ouais.
Mais ils sont toujours là, malgré tout. Ça, c'est merci, parce que c'est vous qui me faites vivre. C'est vous qui faites vivre ce cœur.
C'est une belle manière de rappeler vos tournées, vos dates. De mémoire, alors, j'y suis. Le 19 décembre, vous serez à Florennes.
Oui.
Florennes, le 21 décembre à Waterloo, donc vous revenez... Oui. Vous venez dans le Nord. Du 11 au 19 janvier, vous partez en croisière en République dominicaine.
Oui, alors là, c'est aussi l'amitié qui fait qu'on est toute une bande de gens qui me suivent depuis des années. Et puis je leur dis, bon, ils me disent surtout, quand est-ce qu'on refait une croisière ensemble? Donc c'est l'occasion de, de repartager ces 40 personnes qui partent avec moi et on va partager ces moments de... Je limite à 40 parce que je veux être à eux. Et pas être avec plein de monde et pas
souvent. Vous allez passer un bon moment.
Voilà, exactement.
À Mauriez, le 24 janvier, à Casneuil, le 25 janvier, puis on s'arrête en février, à Messine, le 1er février. Je rappelle, voilà, il est là, est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Oui, le nouvel album de Christian Delagrange, Et je t'aime. On va se quitter d'ailleurs avec un petit, encore l'extrait de votre chanson. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christian.
C'était merveilleux. Merci.
Sur Mélodie Radio, à bientôt.
À bientôt.
Et je t'aime, ma douceur. Et je t'aime, sur ma vie, mon honneur. Et je t'aime, ma douceur. Et je t'aime, une histoire sans douleur. La vie à la mort, aux confins des Açores, je t'emmène et je t'aime.